Il est 13h sur Radio Orient. Bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. Après 4 jours de bouclage de la bande de Gaza, l'unique centrale électrique du territoire palestinien pourrait cesser de fonctionner faute de carburant. Le Conseil de sécurité de l'ONU salue la prolongation de la trêve au Yémen. Le Liban a commémoré hier le 2e anniversaire de la double explosion du port de Beyrouth. L'enquête sur cette catastrophe est bloquée depuis des mois. Nous ferons le point avec la journaliste Maya Kadra. Entretien également avec le réalisateur Philippe Audidor. Il est retourné dans le quartier d'Achrafieh, l'un des quartiers dévastés, le 4 août 2020. Et il a réalisé un documentaire intitulé « Beyrouth face aux monstres ». Enfin, le Parlement français a adopté le 2e volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat. La centrale électrique de Gaza pourrait fermer en raison du bouclage israélien décidé il y a 4 jours. Cette centrale a besoin de carburant pour fonctionner, mais l'armée israélienne a fermé les passages frontaliers à Gaza après l'arrestation d'un chef du djihad islamique. Conséquence, aucun camion ne peut entrer ou sortir de Gaza, notamment ceux qui apportent du carburant. Israël explique avoir pris cette mesure pour empêcher une éventuelle attaque contre des civils. Le Conseil de sécurité de l'ONU salue le renouvellement de la trêve au Yémen pour 2 mois supplémentaires. Le Conseil appelle aussi les parties en conflit à intensifier les négociations pour en faire un cessez-le-feu durable. L'ONU se dit par ailleurs inquiète face au décès de civils causés par des mines terrestres. En Irak, des milliers de partisans de Moqtada Sadr ont décidé de prier en ce vendredi dans la zone verte ultra sécurisée de Bagdad. Une nouvelle démonstration de force du leader chiite qui est favorable à des législatives anticipées. Les manifestations de ces derniers jours à Bagdad ont été lancées pour dénoncer une candidature au poste de Premier ministre, candidature proposée par les adversaires de Moqtada Sadr. Le Liban a commémoré hier le 2e anniversaire de la double explosion dans le port de Beyrouth, une catastrophe qui a fait 224 morts et 7000 blessés le 4 août 2020. Au moment où des manifestants se rendaient au port pour cet anniversaire, une partie des silos à grains endommagés par l'explosion s'est effondrée. Le patriarche maronite, le cardinal Béchara Rahi, a célébré une messe à la mémoire des victimes dans la cathédrale Saint-Georges de Beyrouth. À cette occasion, le dignitaire religieux a estimé que le crime du siècle pourrait être un crime contre l'humanité. Selon lui, les entraves à l'enquête sur l'explosion pourraient justifier une enquête internationale. Une enquête qui est suspendue depuis des mois. Entretien avec la journaliste Maya Kadra.
Pour parler de l'enquête, il conviendrait peut-être que je fasse un peu la lumière sur la chronologie de tous les obstacles en fait qui ont fait que l'enquête aujourd'hui, elle est suspendue. Alors, il y avait le juge d'instruction, Tarek Bitar, qui a été chargé d'enquêter sur l'explosion du port de Beyrouth. Cependant, ce juge d'instruction a commencé en fait à émettre des mandats d'arrestation contre d'anciens ministres et des ministres actuels qui appartiennent au tandem chiite, c'est-à-dire Amal et Hezbollah. Ceci a réveillé un peu la colère de la rue chiite qui est partisane du Hezbollah et du parti Amal aussi. Et il y a eu des événements qui ressemblaient à la guerre civile en octobre 2021 pour demander l'arrêt de cette enquête et pour demander aussi que Tarek Bitar soit évincé. S'en est suivi plusieurs autres événements politiques majeurs pour suspendre cette enquête et je vais les énumérer les uns après les autres. En décembre 2021, on avait une échéance, c'était celle des nominations judiciaires, c'est-à-dire nommer les magistrats et nommer aussi surtout les magistrats à la Cour de cassation. Ceci a été suspendu par le ministre des Finances, Youssef Khalil, en décembre 2021 parce que ce dernier n'a pas signé, il a refusé d'apposer sa signature sur le décret de désignation, bien de nomination, de ses magistrats à la Cour de cassation. Et donc, de fait, le juge d'instruction Tarek Bitar, en effet, s'est vu suspendre un peu sa mission d'enquêter sur l'explosion du port. Et donc, on ne peut pas espérer une enquête nationale sur le plan libanais sur cette explosion, sachant que l'État libanais, il est complice des bourreaux, des criminels, un peu qui ont fait la sourde oreille aux différentes mises en garde énoncées par les hauts fonctionnaires du port, qui exprimaient leur inquiétude face au stockage de quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium à l'entrepôt numéro 12. Et donc là, il y a une responsabilité criminelle de la part de ministres, de la part de députés, et le chef du Parlement, Nabih Berri, il a refusé de lever l'immunité sur quelques députés qui sont impliqués également dans ce crime contre le peuple libanais et contre surtout la capitale du Liban, Beyrouth. Et donc aujourd'hui, on en est à un blocage total de l'enquête, et le lumignon d'espoir qui reste pour les Libanais, c'est de demander une enquête internationale sous la houlette des Nations Unies. Alors il y a eu des initiatives issues de blocs parlementaires, notamment celui de la République forte, et c'était au lendemain de l'explosion, le 17 août 2020. Il y a eu une lettre qui a été adressée à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Sauf que ce dernier n'a pas la jurisprudence qui lui permet de prendre des décisions quand il s'agit de requêtes non gouvernementales. Sachant que ce n'était pas le gouvernement libanais qui a envoyé cette lettre demandant une enquête internationale, c'était plutôt un bloc parlementaire. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, n'a rien pu faire. Et donc la toute dernière initiative présentée par ce même bloc et ses alliés était une lettre donc adressée à l'Organisation des droits de l'homme qui est à Genève, et cette organisation qui est formée de 47 pays membres pourrait à ce moment-là peut-être demander la formation d'une commission d'établissement des faits. C'est un peu une expression plus adoucie pour ne pas faire face à des clashs au Liban, parce qu'enquête internationale, ça rappelle un peu le tribunal spécial pour le Liban après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri et toutes les tensions que ça a générées. Donc aujourd'hui, la principale revendication portée par ce bloc parlementaire, c'est une commission d'établissement des faits afin que l'on puisse élucider en fait dans quelles conditions cette explosion a eu lieu, et afin surtout de rendre des comptes, surtout aux familles des victimes. Plus de 224 victimes, 300 000 déplacés, dont des personnes âgées et très démunies, et plus de 7 000 blessés. C'est une des pires catastrophes de notre siècle actuel, de notre époque moderne en fait. C'est une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire de l'humanité après Hiroshima et Nagasaki. Et donc là, on est face vraiment à une injustice, à une frustration grandissante de la part du peuple libanais, avec une paralysie au niveau des institutions libanaises, au niveau du pouvoir judiciaire, une paralysie aussi internationale, et je me permets de la signaler sur les ondes de votre radio, de la part de la communauté internationale qui jusqu'aujourd'hui promet pour le Liban, promet de rendre justice, promet d'enquêter, etc. Mais ça reste au niveau des discours et on ne passe jamais à l'acte.
La journaliste Maya Kadra, 2 ans après, le traumatisme est toujours présent chez les familles des victimes et les personnes blessées ou sinistrées. Le réalisateur Philippe Audidor est revenu dans son quartier d'Ashrafieh à Beyrouth pour interroger des voisins sur ce qu'ils ont vécu le 4 août 2020. Aujourd'hui, il présente son documentaire intitulé « Face aux monstres ». On l'écoute.
Pour le coup, moi j'étais en France à ce moment-là. Et oui, ça a été assez particulier comme moment, parce qu'on a commencé à recevoir des informations sur WhatsApp, etc., plein de messages. Et au début, j'ai pas compris l'ampleur en fait de l'explosion. Donc au début, j'ai vu que c'était au port et je me suis dit bon, bah, c'est une bombe. J'imagine que c'est pas en plein centre résidentiel. Ça va aller vraiment sur le port. Et donc j'ai été rassuré. Et ensuite, on commence à voir les images. Et là, on voit l'ampleur de cette explosion et on réalise que ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait pu imaginer. Et là, vraiment, c'était cette panique depuis l'étranger, en plus de ne pas pouvoir joindre sur place tous les proches. donc de pas savoir comment eux ils allaient et de vraiment être attaché à son ordinateur pour essayer de trouver n'importe quelle petite information. Et c'était voilà, c'est comme ça que moi en tout cas je l'ai vécu personnellement. J'ai l'impression que quelque part, vu que voilà, avec cette révolution qui avait commencé, on parlait déjà de la corruption des politiciens, de leur inaptitude à diriger, et là cette explosion qui arrive pendant cette révolution, je pense qu'elle a malheureusement mais exemplifié de façon presque parfaite leur inaptitude à diriger, et vraiment aussi leur manque de respect, de compassion, de intérêt par rapport à leurs propres citoyens, parce que suite à l'explosion, il n'y a eu quasiment aucune aide gouvernementale pour venir aider les gens. Donc pour les Libanais, je pense que ça a été une confirmation, voilà, de ce pourquoi ils étaient en train de faire la révolution. Ensuite, bien sûr, sur le coup, ça a traumatisé plein de Libanais, plein de Routins particulièrement, et ça a créé voilà cette sorte de trauma collectif. Ça c'est malheureusement quelque chose que tout le monde partage maintenant.
Alors vous avez réalisé un film sur cette double explosion, un documentaire intitulé Beyrouth face aux monstres. Comment l'avez-vous conçu ?
Alors ça s'est fait de façon pas réfléchi finalement, parce que j'ai été, donc suite à l'explosion, j'ai été sur place pour aider ma famille, qui c'est ma mère qui habite sur place à Beyrouth, pas loin du port justement. Donc d'abord j'étais sur place juste pour aider à un niveau personnel, et bien sûr j'ai commencé à parler à mes amis, aux proches et aux gens du quartier, qui est le quartier de Achrafieh. Et voilà, je commençais à entendre toutes leurs histoires, comment eux avaient vécu cette explosion. Et quand je rentre à Paris suite à l'explosion, je retrouve tout d'un coup plein de films. En fait, j'avais filmé la ville, j'avais filmé le quartier parce que j'adore Beyrouth, et je l'avais filmé avant la révolution en 2019. Et je retrouve toutes ces images du Beyrouth d'avant et du port et du hangar où se situe où le nitrate était, sans qu'on le sache. Et donc là, c'était très très fort de revoir ces images à ce moment-là. Et donc quand je suis reparti à Beyrouth quelques mois après, j'en ai profité cette fois pour vraiment enregistrer les gens que je croisais en leur demandant voilà de partager leur histoire. Et je suis, à ce moment-là, j'ai accumulé plusieurs heures d'enregistrement, et peu à peu je me suis dit que voilà, j'allais créer ce documentaire où j'avais les témoignages des gens qui m'expliquaient comment eux vivaient l'après-coup de l'explosion, et accompagné des images du Beyrouth d'avant. Quand j'étais de retour à la maison, par exemple, personnellement, je n'étais pas sur place au moment de l'explosion, mais juste de me dire bah voilà, moi ma chambre à coucher est là, je regarde par la fenêtre et je sais que le voisin en face, là, lui, est décédé. Ça nous confronte un peu à l'injustice de la vie, en fait. Et finalement, avec cette injustice, on va en faire quelque chose, voilà, rendre hommage, et pour ces gens qui sont décédés, hommage et crier à leur injustice. Parce que si nous, ou ceux qui ont survécu, eux, enfin, ne crient pas à l'injustice, qui d'autre va le faire pour ceux qui sont décédés?
Et une des personnes de votre film dit que chacun de nous est un héros. C'est votre sentiment également ?
Tout à fait. Ça, c'est la chose qui m'a le plus marqué. Ça a été de voir comment les Libanais, avec tout ce qui se passait, arrivaient quand même à aller de l'avant et arrivaient à trouver une façon de se reconstruire. C'était vraiment, ça, c'était très très fort. Ça a été très impressionnant tout de suite, dès le lendemain de l'explosion. Il y avait des groupes WhatsApp qui se créaient avec tout le monde qui se disait voilà, dès demain, rendez-vous tous ensemble pour aller déblayer les rues, mettre en place des systèmes d'aide. Et ça a été vraiment cette solidarité qui était tout de suite mise en action et qui était très très belle à voir d'un côté, et de l'autre qui était rageante, en se disant que les gens qui sont déjà en train de se confronter déjà à l'horreur doivent organiser l'aide pour se remettre de cette horreur, alors que en temps normal on espérait que l'État soit là pour nous aider dans ce genre de catastrophe.
Le réalisateur Philippe Audidor. Trois nouveaux chargements de céréales ont quitté l'Ukraine. Ces trois bâtiments chargés de maïs doivent livrer leur cargaison en Irlande, en Angleterre et en Turquie. Après 3 semaines de débats, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté définitivement le second volet du paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le texte va permettre de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. Il entérine la suppression de la redevance audiovisuelle et la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie. Quant à la monétisation des RTT, elle sera possible jusqu'à la fin 2025. Pour faire face à la sécheresse, une cellule interministérielle de crise a été ouverte par Elisabeth Borne. Il s'agit pour la Première ministre de coordonner les moyens de l'État. Le gouvernement veut gagner en efficacité pour approvisionner en eau des communes et effectuer des livraisons d'eau potable. 93 départements français font l'objet de restrictions d'eau. Enfin, parmi les personnes atteintes de Covid-19, 1 sur 8 garde à long terme l'un des symptômes caractéristiques du Covid long. C'est ce qu'affirme une étude publiée en France. Ces symptômes comprennent des douleurs abdominales, des difficultés, des douleurs respiratoires, des douleurs musculaires, une perte du goût ou de l'odorat, ainsi qu'une fatigue générale, des symptômes qui peuvent persister 3 à 5 mois après l'infection. Cette édition est terminée, je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.